Voilà, et ça n'est pas un orage. Ce bruit impressionnant est celui d'un bloc de glace qui se détache d'un iceberg. Et c'est aujourd'hui le sujet à la une de la science, Héloïse Rambert.
Oui, Mathieu, aujourd'hui on revient sur une étude de l'Académie des sciences américaines pour laquelle des scientifiques glaciologues ont suivi l'évolution de la masse de la calotte glaciaire antarctique pendant 40 ans. Alors, vu l'ampleur de la surface à surveiller, ils ont travaillé à partir d'images haute résolution du continent prises par des satellites. Ils ont ensuite analysé les clichés, ce qui leur a permis de s'apercevoir qu'entre 1979 et 1990, l'Antarctique avait perdu en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire par an. Mais depuis 2009, on est passé dans une autre dimension avec une perte annuelle passée à 252 milliards de tonnes, soit environ 6 fois plus.
C'est donc pire.
C'est bien pire. Alors, c'est surtout à l'ouest du continent, au niveau de ce qu'on appelle la péninsule antarctique, que cette fonte glaciaire se produit. On va en parler tout de suite avec Sylvain Coutran, qui est avec nous au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes géomorphologue, membre associé au laboratoire d'environnement de l'Université de Savoie. Alors, quand on lit les chiffres de cette étude, ça ressemble pas vraiment à une bonne nouvelle pour la planète. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous aussi?
Oui, effectivement. Ça fait partie de toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent journellement, et notamment sur la fonte des glaces. Les glaciers de l'Antarctique subissent aussi la fonte des glaces, mais je crois qu'il faut un petit peu relativiser le propos. On a une fonte assez exceptionnelle dans l'Antarctique Ouest, au niveau de la péninsule. En fait, la péninsule, c'est le prolongement de l'Amérique du Sud. Et là, on a des glaciers qui arrivent dans l'océan, comme tout autour de l'Antarctique, qui donnent naissance à des grandes plateformes glaciaires qui sont très, très vastes. Et certaines de ces plateformes glaciaires ont disparu. Ça fait des volumes de glace colossales. Donc, c'est dans cette zone du monde que les glaciers actuellement fondent le plus.
On va y revenir, mais tout d'abord, est-ce que c'est une surprise pour les scientifiques, cette accélération? C'est quelque chose qui avait été prévu ou complètement sous-estimé?
Ça avait été apparemment un peu sous-estimé. La fonte de ce secteur, on sait que cette région du monde s'est réchauffée d'à peu près 3 degrés, voire un peu plus, même depuis une soixantaine, 70 ans, 80 ans, et c'est une partie, la partie de l'Antarctique qui subit le plus la fonte. L'autre partie de l'Antarctique, donc l'Antarctique Est, qui correspond à la plus grande masse de glace du monde, on ne sait pas. Actuellement, les bilans seraient positifs. On aurait, ce qui est sûr, c'est que l'Antarctique Est augmente en épaisseur du fait de plus de précipitations, mais on a quand même beaucoup de fonte sur la marge, sur les glaciers qui arrivent dans l'océan.
Et qu'est-ce qui se passe à l'ouest exactement pour qu'on en arrive à une telle situation ?
À l'ouest, en fait, on a des glaciers qui ont subi le réchauffement beaucoup plus important, qui subissent également une légère remontée du niveau marin. Le niveau marin n'est pas beaucoup remonté, 1 cm depuis un siècle à peu près. Ça suffit pour déstabiliser des grands icebergs tabulaires. En fait, non pas des grands icebergs, mais des plateformes glaciaires qui avancent sur l'océan. Ce sont des choses qui, des phénomènes physiques d'écoulement de la glace qui, en théorie, ne devraient pas exister, hein. Mais ça existe, et on a des grandes surfaces recouvertes de glaciers flottants qui finissent par se disloquer, comme la plateforme Larsen il y a quelques années. Ça correspond à des volumes absolument colossaux. Donc dès que le réchauffement se fait ressentir au niveau de l'océan et au niveau de l'atmosphère, immédiatement ce sont ces zones extrêmement fragiles qui sont les premières touchées.
Alors Sylvain Coutran, encore deux questions parce que le son n'est pas très très bon, donc on va malheureusement être obligé d'abréger. Mais quand même, on a envie de connaître les causes quand même de cet emballement. Quelles sont-elles, très rapidement?
Alors très rapidement, c'est l'augmentation évidemment des températures de la Terre. La Terre a quand même, les températures ont gagné un degré depuis une centaine d'années, voire un tout petit peu plus. Cette zone a été beaucoup plus touchée. On a des océans qui se réchauffent également. L'océan Austral s'est légèrement réchauffé, et inévitablement, ça fragilise ces glaciers flottants qui se disloquent et qui, donc, on a une très, très grosse perte de volume.
Alors, est-ce qu'il est possible de savoir comment va évoluer la situation, en particulier si le climat continue à se réchauffer, ce qui est fort probable?
Alors, le climat, évidemment, il va continuer à se réchauffer et ça tient également, ça tient en grande partie des gaz à effet de serre que l'activité humaine renvoie dans l'atmosphère. Les perspectives, on les connaît pour les glaciers alpins, on les connaît moins pour ces grandes calottes glaciaires, parce que le temps de réponse de ces grandes calottes glaciaires est très très long. C'est pas 3 générations, c'est plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Le Groenland, on sait qu'une partie du Groenland va fondre dans les 100, 200, 300 prochaines années. Pour l'Antarctique, il y a beaucoup de modèles. Tout est modélisé et selon les paramètres qu'on va intégrer dans les modèles, on a des résultats plus ou moins différents. Quoi qu'il en soit, on a quand même une sonnette d'alarme qui est qui est tiré aujourd'hui.
Et concrètement, est-ce qu'on peut savoir de combien vont s'élever les océans dans les décennies qui arrivent avec ces nouveaux éléments?
Alors, avec les nouveaux éléments, les calculs qui ont été faits suggèrent une augmentation d'environ, comprise entre 50 cm et un petit peu plus d'un mètre pour la fin du siècle. Parce que le problème, c'est que non seulement les océans vont un peu se réchauffer, mais le niveau marin, étant donné qu'il va remonter, ça va encore plus déstabiliser les glaciers de l'Antarctique qui arrivent dans l'océan.
C'est une sorte d'emballement, en fait.
Une sorte d'emballement, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Sylvain Coutran, pour ces explications à la suite donc de cette publication qui est sortie il y a quelques jours à peine. Merci. Et Héloïse, on se retrouve demain pour
à
une
demain.
Nouvelle une. Merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour protéger à la fois l'environnement et la santé humaine, un changement de régime alimentaire radical s'imposerait également. C'est la conclusion d'un rapport co-réalisé par la revue médicale The Lancet et l'ONG Fondation HIT, qui a mobilisé pendant 3 ans 37 experts de 16 pays. Et le régime le plus éthique, selon ces experts, devrait être à l'échelle mondiale 2 fois moins riche en viande rouge et en sucre, et 2 fois plus riche en fruits, en légumes, en légumineuses et en noix. Un tel modèle alimentaire permettrait d'éviter, selon eux, environ 11 millions de décès prématurés par an dans le monde. Il préserverait également la stabilité de notre système climatique et de nos écosystèmes. Les caractéristiques du développement dentaire de l'homme moderne ne dateraient pas vraiment d'hier. Un groupe de scientifiques chinois et internationaux dont l'étude est publiée dans la revue Science Advances a travaillé sur le fossile d'un enfant chinois qui aurait entre 104 000 et 248 000 ans et analysé donc sa dentition. Et en dépit d'une morphologie dentaire archaïque, ils ont constaté que la plupart des aspects du développement dentaire de ce jeune garçon de 6 ans présentait déjà des caractéristiques humaines modernes, comme par exemple le temps prolongé de formation de la couronne et le retard de la première poussée de la molaire. Ces résultats suggèrent que plusieurs facettes du développement de la dentisterie humaine ont évolué à l'est de l'Asie. Et puis enfin, au programme du week-end prochain, un débat autour des thèmes du climat, de l'énergie et de l'environnement. Et c'est un événement organisé par la Société française de physique et la Société chimique de France. Un événement accessible à tous qui va se tenir à l'école normale supérieure à Paris le 19 janvier, donc cette semaine. Ce sera rue Laumont dans le 5e arrondissement. Les deux associations souhaitaient apporter au débat public un éclairage indépendant et sans biais idéologique donc sur ces questions climatiques et énergétiques. Si vous souhaitez y participer, c'est ouvert au public. Mais attention, l'entrée est gratuite sur inscription. En allant sur le site de la Société française de physique, c'est sfpnet.fr.